L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. À l'occasion de la troisième rencontre de l'ADES, l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « Questions agricoles et agroalimentaires, quels enjeux et défis pour l'ESS ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'économie sociale et solidaire. Simon Cornet, voulez-vous bien vous présenter ?
Je suis maître de conférence à l'Université de Rennes et membre du CREM, donc le Centre de recherche en économie et management, une unité mixte de recherche entre l'Université de Rennes et puis le CNRS. Mes thèmes de recherche sont doubles. Le premier concerne la finance coopérative et la finance sociale. Et puis le deuxième concerne la gouvernance des organisations, notamment des coopératives.
Très bien, je vous remercie. Ce matin, lors de la troisième rencontre de l'ADES, vous avez parlé des CUMA. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
Alors en fait, les CUMA sont des coopératives. Alors l'acronyme veut dire coopérative d'utilisation de matériel agricole.
Donc là ça parle tout de suite.
Voilà, donc c'est assez explicite. Donc c'est des agriculteurs, des exploitants agricoles, des paysans selon leur appellation, qui vont se mettre ensemble pour investir en commun dans du matériel, gérer en commun ce matériel, et ils peuvent aussi embaucher des salariés aussi grâce à cette forme organisationnelle. Donc il existe, selon les statistiques de la Fédération nationale des CUMA, environ 12 000 CUMA en France, dont 9 000 sont actives, réparties sur tous les territoires français, mais avec quand même une concentration plus forte sur la façade atlantique.
D'accord. Alors quel est l'intérêt principal des CUMA ? C'est le prêt de matériel ? C'est le fait de moindre investissement pour, de façon individuelle ? Ou ça va au-delà ?
La logique première, c'est de pouvoir accéder à du matériel de pointe à un coût raisonnable, puisque les coûts de mécanisation, alors ça dépend des productions, mais peuvent représenter une part assez substantielle des coûts des organisations. Et du coup, d'investir en commun permet de réduire mécaniquement ces coûts. Ça, c'est la première raison et c'est probablement la porte d'entrée pour entrer dans ce genre de coopérative. Et puis, en fait, après, ce support-là permet un travail en commun. L'utilisation commune du matériel permet aussi, on y reviendra sûrement, mais un partage socio-technique, etc.
Quels sont les avantages au-delà de l'échange de matériel ou le prêt de matériel ? Est-ce qu'il y a d'autres avantages liés à la CUMA ?
Un point positif que je n'ai quand même pas souligné, mais qui peut être assez important, c'est que donc les agriculteurs ont besoin de matériel. Donc soit ils l'achètent en propre, soit ils font appel au service d'une entreprise de travaux agricoles, appelée aussi ETA, soit ils créent une CUMA. En gros, c'est un peu les trois formes qu'on peut avoir après, des formes intermédiaires. Donc je pense que la porte d'entrée, c'est d'accéder au matériel. Et en fait, en faisant ça, ce que j'ai un peu indiqué précédemment, c'est qu'ils peuvent, c'est un support de partage de pratiques. Donc ça, c'est finalement, par ce partage de pratiques, ça fait évoluer, en fait, donc partage collectif fait évoluer les pratiques individuelles, notamment sur le plan agroécologique, donc sur l'utilisation des pesticides.
Alors, est-ce qu'on a des données précises ? Est-ce que vous avez des éléments à nous fournir sur ce plan-là, sur le plan des pesticides, par exemple ?
Alors, on a démarré un projet présenté ce matin. Dans le cadre de ce projet, une première étude nous indique que plus il y a de CUMA sur un territoire, plus il y a de membres de CUMA sur un territoire, sur une unité territoriale assez étroite, moins il va y avoir de consommation de pesticides. Ce qui tendrait à dire qu'il y a un lien finalement qui existe entre la densité de ces coopératives au niveau local, au niveau territorial, et la consommation de pesticides.
Donc de l'outil à la pratique à finalement moins de pesticides. C'est un enseignement très positif. Est-ce qu'il est partagé par les membres des CUMA ? Vous en êtes où de la prise de conscience de cet élément ?
Alors en fait, effectivement, de plus en plus, je ne voudrais surtout pas parler au nom des CUMA, mais j'ai l'impression que ces pratiques d'action collective deviennent un moyen de réduire finalement l'utilisation des pesticides. Alors, ce qu'on pourrait dire quand même, notre travail vise nous à expliciter des mécanismes et il y a deux mécanismes qu'on pourrait mentionner, on peut les développer éventuellement. Le premier, c'est le fait d'être dans une coopérative d'assez petite taille permet d'avoir une délibération sur le choix des investissements qu'on va faire. Et donc, on va finalement modifier la qualité, enfin, les aspects qualitatifs de l'investissement et peut-être plus s'orienter vers des investissements de type environnementaux. Et donc ça, c'est un premier canal de transmission finalement entre la densité d'écuma et la moindre consommation de pesticides. Et le deuxième canal qu'on a identifié, c'est un effet de paire. C'est-à-dire que ce que j'ai indiqué un peu tout à l'heure, c'est que l'utilisation commune du matériel, enfin, en tout cas le partage du matériel, va modifier les pratiques, avoir une forme de réflexivité sur ces pratiques, et donc ça va faire évoluer ces pratiques et aller vers éventuellement des pratiques qui sont plus agroécologiques, donc pour ce qui nous concerne, une moindre utilisation de pesticides. Donc finalement, c'est les deux principaux canaux pour l'instant qu'on a identifiés et qui semblent assez robustes sur le plan statistique.
Très bien, merci infiniment pour ces précisions importantes. On a parlé des avantages possibles liés au cuma. Est-ce qu'il y a des freins ? Parce que j'imagine qu'au sein des cumas, il y a une certaine hétérogénéité aussi des membres. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver une convergence ?
Là, on se heurte à des problèmes assez, finalement, assez bien connus dans la gouvernance. C'est des problèmes, surtout des gouvernances des coopératives, c'est des problèmes d'action collective. C'est finalement... est-ce que tout le monde ne contribue pas forcément à la même hauteur à la réussite de la coopérative, mais tout le monde en bénéficie. Et donc ça, c'est des problèmes assez standards. Là, il faut indiquer que donc ça, c'est des problèmes qui sont communs à toute forme organisationnelle, notamment les coopératives. Et là, ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est que ces cumas sont intégrés dans un système fédératif qui a plusieurs échelons, proximité, régionaux et puis une fédération nationale, qui sont un cas typique de ce qu'on appelle de la gouvernance polycentrique. C'est-à-dire qu'on a des unités de décision qui coexistent, mais il n'y a pas forcément de hiérarchie entre ces unités de décision. Et en fait, ces échelons fédératifs, même si ce n'est pas une panacée, parce qu'il y a toujours des frottements entre les différents échelons, sont quand même un moyen de régler, dans une assez grande mesure, finalement, les problèmes d'action collective qui peuvent émerger au niveau local. Parce que quand on regarde un peu les comparaisons internationales, on voit que des formes organisationnelles équivalentes au CUMA et qui n'ont pas forcément ce réseau fédératif vont péricliter davantage, vont être moins pérennes, etc. Donc on voit l'importance finalement de cette gouvernance polycentrique. Néanmoins, il y a des soucis qui peuvent émerger sur l'hétérogénéité des membres. Ça, c'est un des problèmes aussi de l'action collective hétérogénéité ne peut pas être totalement résolue par cette gouvernance polycentrique et tient à des facteurs qui dépassent finalement le territoire d'opération de ces cumas. Là, on observe que les cumas, c'est un peu paradoxal, mais c'est probablement un des derniers lieux où des systèmes agricoles, pour caricaturer, coexistent. Mais en même temps, on voit que ces systèmes agricoles tendent à diverger de plus en plus. Et donc, plus ils vont diverger, parce que des contraintes macro-institutionnelles ont été levées, plus la coopération au niveau local va être difficile entre les agriculteurs, les paysans. Et donc ça, c'est un facteur qui limite finalement la profondeur de la coopération, tant sur la quantité, c'est-à-dire sur le volume de matériel agricole partagé, le niveau d'investissement quelque part, tant que sur la qualité, c'est-à-dire le type d'investissement, la nature de l'investissement des matériels qui sont acquis en commun.
On vient de parler de ces différences qui peuvent opposer les personnes, mais j'imagine quand même qu'il y a un intérêt collectif et qu'il est ressenti à certains moments.
Tout à fait. Ici, on touche à un point intéressant de la théorie coopérative, enfin, de la théorisation en général de l'économie sociale. On peut finalement opposer deux types d'intérêts. Ce qu'on appelle dans les coopératives l'intérêt mutuel, donc c'est-à-dire l'intérêt des membres. Finalement, la coopérative, sa fonction et objectif, comme on dit, va être de maximiser le bien-être de ses membres. Et puis l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt, la poursuite du bien commun, c'est un terme un peu plus contemporain pour ça. Et donc on peut avoir finalement des tensions, des divergences entre l'intérêt des membres de la coopérative et puis l'intérêt général. Et l'espoir qu'on a, en tout cas en étudiant ce type de coopérative, c'est que vu qu'elles sont de petite taille, elles sont localisées et sont insérées dans un système de gouvernance polycentrique avec ses échelons fédératifs, elles ont probablement une qualité de débat, de délibération qui est assez forte, qui est assez démocratique. Et ça, c'est un espoir de convergence entre l'intérêt des membres et puis l'intérêt général, la poursuite du bien commun.
Merci Simon Cornet pour toutes ces informations très éclairantes. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes. Merci à vous. Nous vous remercions de votre écoute et attention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.